Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est une lettre d'amour pleine de passion et d'énigmes que Franck Ferrand a ressorti pour nous cet après-midi des tiroirs de l'histoire. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Cette lettre d'amour est connue sous le nom de lettre à l'immortel bien-aimé. Elle est de la main d'un des plus grands maîtres de la musique, Ludwig van Beethoven. On arrive sans trop de peine à la dater, cette lettre. Elle aura 200 ans tout rond dans quelques semaines. En revanche, il a été très difficile de découvrir à qui Beethoven l'a destinée. C'est une énigme poignante que je vous propose de déchiffrer maintenant.
Et vous avez demandé à Thierry Geffrotin d'Europe 1 de nous rejoindre.
Et oui, il a sur Beethoven un millier de révélations à nous faire. C'est le moment de nous envoyer vos questions, vos remarques sur le site internet de la radio.
Que je rappelle, europe1.fr.
Allons-y Julia, une immortelle bien-aimée nous a attends.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
À la mort du maître, un après-midi orageux de mars 1827, on est à Vienne. Ses deux plus fidèles amis, Breuning et Schindler, font le tri de ses papiers. Les historiens de la musique estimeront qu'ils n'ont pas su sauver ce jour-là l'esquisse, une esquisse très avancée semble-t-il, de la dixième symphonie à laquelle travaillait Beethoven. Il y a fort à parier que ce chef-d'œuvre ultime a terminé dans la benne à ordures. En revanche, Schindler ramasse pendant la soirée une longue lettre de 10 pages, une lettre qu'avait cachée Beethoven, lettre inouïe, appelée à devenir célèbre lorsque Schindler la publiera 13 ans plus tard, en 1840. Ludwig van Beethoven l'a tracée, cette lettre, au crayon de son écriture habituelle, fébrile, oh, de plus en plus fébrile, à mesure que l'on avance vers le dixième et dernier feuillet. Elle est datée du lundi 6 et du mardi 7 juillet, sans indication de millésime. Alors, je vous propose de vous en lire l'essentiel, peut-être pas la lettre in extenso, elle fait 10 pages, mais les phrases, les inflexions, j'allais dire la musique principale. Mon ange, mon tout, mon moi, quelques mots seulement aujourd'hui, et même avec un crayon, avec le tien, ce n'est que demain que mon logement sera définitivement arrêté. Mais pourquoi ce profond chagrin, alors que la nécessité parle? Notre amour peut-il exister autrement que par des sacrifices, par l'obligation de ne pas tout demander? Peux-tu faire autrement que tu ne sois tout à moi, et moi, tout à toi? Ah Dieu, contemple la belle nature et tranquillise nos esprits sur ce qui doit être. L'amour exige tout et avec toute raison, ainsi en est-il de moi avec toi, de toi avec moi, mais tu oublies si légèrement que je dois vivre pour moi et pour toi. Si nous étions tout à fait réunis, tu éprouverais aussi peu que moi cette douleur. Nous nous reverrons sans doute bientôt. Aussi aujourd'hui, je ne puis te faire part des observations que j'ai faites sur ma vie pendant ces quelques jours. Si nos cœurs étaient toujours serrés l'un contre l'autre, si nos cœurs, je n'en ferais pas de pareil. Le cœur est trop plein pour pouvoir te dire quelque chose. Reste mon fidèle et mon unique trésor, mon tout, comme je le suis pour toi, et il signe une première fois « Ton fidèle Ludwig ». Et puis il ajoute un peu plus bas, lundi soir 6 juillet, « Tu souffres, toi mon être le plus cher, à l'instant j'apprends que les lettres doivent être données de très grand matin, lundi, jeudi, les seuls jours où la poste parte d'ici pour K. » Ah, voilà un élément de l'énigme. « Ah, là où je suis, tu es aussi avec moi, et avec moi, et moi avec toi, pardon. Je ferai en sorte que je puisse vivre avec toi. Quelle vie ! Elle m'afflige, et lorsque je considère dans l'ensemble de l'univers, que suis-je et qu'est celui qu'on appelle le plus grand ? Je pleure quand je pense que tu ne recevras vraisemblablement que samedi la première nouvelle de moi, combien tu m'aimes. Pourtant, je t'aime encore plus fort, mais ne te cache jamais de moi. » Bonne nuit. Étant ici en qualité de baigneur, il faut que j'aille dormir. Ah Dieu, si près, si loin, notre amour n'est-il pas un véritable édifice céleste, mais aussi solide que la voûte du ciel? Et il ajoute, bon matin, le 7 juillet, au lit, Les pensées se pressent déjà vers toi, mon immortel bien-aimé. Voilà, elle est nommée, mon immortel bien-aimé. Parfois joyeuse, ses pensées, puis de nouveau triste, demandant au destin s'il nous exaucera. Mon ange, je viens d'apprendre que la poste part tous les jours, finalement. Il faut donc que je m'arrête afin que tu reçoives cette lettre tout de suite. Sois calme, ce n'est que par une contemplation tranquille de notre être que nous pourrons atteindre notre but, vivre ensemble. Sois calme, aime-moi, aujourd'hui, hier, quelle aspiration baignée de larmes vers toi, toi, ma vie, mon tout à Dieu, oh, continue à m'aimer, ne méconnais jamais le cœur très fidèle de ton aimé, elle. Et il ajoute, éternellement à toi, éternellement à moi, éternellement à nous. Cette lettre est belle, écrit André Mauroy, haletante comme certaines œuvres musicales de Beethoven, et le triple éternellement final évoque les accords qui ponctuent la fin des grandes symphonies. Il est évident que celle à qui fut adressée cette lettre était l'objet non seulement d'une ardente passion, mais d'un amour durable et ancien. Mon immortel bien-aimé, cela implique le premier rang dans la vie et dans le cœur de celui qui écrit ces mots.
De l'ouverture de Fidelio Franck.
Alors examinons-la de plus près, cette lettre à l'immortel bien-aimé. Elle est de la main de Beethoven. Tous ceux qui connaissent son écriture peuvent vous le certifier. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il s'y reprend donc à trois fois pour l'écrire. Il écrit d'abord dans la journée du lundi 6 juillet, puis il la complète le 6 juillet au soir et il l'achève de bon matin, écrit-il, le mardi 7 juillet. Alors attention, parce qu'on parle de quel mois de juillet là, c'est ça toute la question. En fait, on n'arrive pas facilement à dater cette lettre. Il se trouve que si l'on retient dans la période viennoise de Beethoven, si l'on retient tous les lundis 6 juillet, hein, tous les jours où le 6 juillet tombe un lundi, pour parler plus clairement, ce sont les années 1795, 1801, 1807 et 1812. Alors, à partir de là, on essaie de regarder les autres indices. On sait que Beethoven était dans une ville d'eau, puisqu'il dit « je suis ici en tant que baigneur ». Il parle d'une ville toute proche, dont le nom commence par un K. Des bains, un K, c'est Karlsbad, de toute évidence. Et puis, il parle d'une pluie qui l'a détrempé avant d'arriver jusque-là. Alors, eh bien, on regarde un peu tous les éléments et l'on se dit qu'en 1812, ça convient très bien. Il se trouve que le 29 ou le 30 juin 1812, Beethoven a justement quitté Vienne pour la Bohème afin d'aller faire une cure thermale. Le 2 juillet, il est à Prague où il rend visite au prince Kinski et le lendemain, il semblerait qu'il ait rencontré dans les environs de Prague cette personne à laquelle il écrit la fameuse lettre. Le 5 juillet, à 4 heures du matin, il arrive à Töplitz. Töplitz, c'est justement à quelques kilomètres de Karlsbad. Et l'on sait par les journaux locaux que de violents orages se sont abattus sur la région dans les jours qui ont précédé ce lundi 6 juillet. Donc tout coïncide. On peut dire, on a aussi vérifié les heures de lever à la poste de Töplitz et elle aussi, elle coïncide exactement. Tout ça permet de dater la lettre de Beethoven des 6 et 7 juillet 1812. Alors, que fait-il après? Est-ce qu'on a dans la suite de sa vie, cette année-là, des indices qui nous permettraient de savoir de qui il parle? En fait, il ne fait aucune allusion nulle part à la fameuse bien-aimée. On se demande s'il l'a seulement revue. On a l'impression que cette lettre serait restée lettre morte. Alors là, il y a trois hypothèses possibles. Ou bien, ce qu'on possède, c'est un brouillon de lettres que Beethoven aurait recopié ensuite, puisqu'il est écrit à la mine de plomb. Il aurait pu recopier cette lettre, ce brouillon au crayon, il l'aurait recopié à la plume et envoyé. Ou bien, c'est une possibilité aussi, Beethoven aurait envoyé cette lettre au crayon qui lui aurait été restituée par la suite. Vous avouerez que ça, c'est assez peu probable. Ou bien, il ne l'aurait pas envoyé du tout. Pour tout vous dire, c'est l'hypothèse que privilégie la plupart des biographes de Beethoven. Qui est cette personne à laquelle il écrit ? Il faut, pour être capable d'approcher le personnage aussi mystérieux, il faut avoir une idée de ce qu'a pu être la vie amoureuse de Beethoven. Et on va y revenir dans un instant en compagnie de Thierry Geffrotin. C'est Franz Wegeler, qui était le médecin de Beethoven, qui l'a été en tout cas, qui était aussi un de ses amis de jeunesse, qui dit Beethoven, qui écrit « Beethoven était toujours en liaison amoureuse et avait, pendant sa période viennoise, fait des conquêtes qui étaient fort difficiles, sinon impossibles à plus d'un Adonis. Un homme, sans avoir connu l'amour dans ses plus intimes mystères, eût-il pu composer Adélaïde, Fidelio et tant d'autres ouvrages ?» Et un de ses proches biographes, Ferdinand Ries, écrit de son côté « Beethoven était très souvent amoureux. Il aimait beaucoup la société des femmes, surtout lorsqu'elles étaient jeunes et jolies. Et d'habitude, quand nous passions à côté d'une jeune fille un peu agréable, il se retournait, la dévisageait avec son lorgnon et le plus souvent, quand il s'apercevait que j'avais remarqué son manège, il se mettait à ricaner. » Néanmoins, si l'on dit de Beethoven qu'il est une sorte de cœur d'artichaut, qu'il est très volontiers et très facilement amoureux, vous remarquerez qu'on n'a quasiment jamais de nom. On reste dans la généralité, au point que certains de ses biographes se demandent si les amours dont on parle n'auraient pas été des amours platoniques. Charles et Brigitte Massin, qui sont les grands biographes de Beethoven, ont étudié avec beaucoup de soin toutes les candidates possibles pour cette immortelle bien-aimée, et vous allez voir qu'à force de recherches, d'études et de recoupements, ils sont arrivés à celle qui est probablement la personne que nous cherchons aujourd'hui.
Extrait sur Europe 1 de La Passionata. Alors, qui était cette bien-aimée ? La réponse dans un instant sur Europe 1.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Beethoven est à l'honneur aujourd'hui sur Europe 1, le grand compositeur Beethoven, qui était aussi un grand amoureux, Franck.
Eh oui, et qui a donc écrit cette lettre à l'immortel bien-aimé. Il l'a écrite, on le sait maintenant, à l'été 1812, alors qu'il prenait les eaux près de Karlsbad. Qui était-elle, cette immortelle bien-aimée ? Charles et Brigitte Massin se sont demandé si elle ne pouvait pas être sa chère Thérèse de Brunswick. Eh bien, semble-t-il, non, puisque au moment où Schindler publie la lettre, on lit dans le journal de cette Thérèse, elles doivent être, elle parle des feuillets, des lettres, des pages, elles doivent être adressées à Joséphine qui l'aimait passionnément. Ah, donc c'est pas elle, si elle avait été la destinataire, elle en aurait quand même a priori une certaine idée. Cette Joséphine, c'est la fameuse et c'est la chère Pépi, et c'est effectivement la candidate la plus vraisemblable. Elle avait épousé en 1810 le baron von Stackelberg, qui était un balte sans ressources. Elle avait fait de ce baron avant le précepteur de ses enfants. Il se trouve que le 9 avril 1813, c'est-à-dire à peu près 9 mois après la fameuse lettre dont nous cherchons la destinataire, Joséphine a donné le jour à une fille. Une fille qui s'appelle Minona. Or, le mari n'assiste ni à la naissance, ni au baptême de cette fille. Alors, est-ce que Minona pourrait être l'enfant naturel de Beethoven ? Ce qui est certain, c'est que Joséphine de Brunswick, elle était comtesse d'Eym, elle était baronne von Stackelberg, donc par son mariage. Dans l'état des recherches tel qu'il est actuellement, cette Joséphine paraît pouvoir être la destinataire. Elle a été objectivement un amour très fort de Beethoven, et cet enfant dont elle accouche le 9 avril 1813 ne peut pas être de Stackelberg, puisque les deux époux ne se sont pas vus, ne serait-ce qu'une seule fois, entre mai et décembre 1812. Il est tentant de voir en Minona la fille naturelle de Beethoven, écrit André Mauroy, mais encore une fois, il ne s'agit là que d'une hypothèse. La sublime lettre à l'immortel bien-aimé restera et doit rester une énigme. Bonjour Thierry Geffrotin.
Bonjour Franck.
Vous dirigez le service culture d'Europe 1, vous êtes le monsieur musique classique d'Europe 1 et vous êtes venu d'ailleurs avec un fac-similé de cette fameuse lettre à la belle
fameuse lettre à cet immortel tant aimé. C'est un joli fac-similé que l'on trouve dans un ouvrage qui a été publié il y a déjà quelques années par sélection du Reader Digest. Et il y a de nombreux fac-similés, dont cette lettre qui est extraordinaire. Lorsque j'ai...
Alors il est écrit, on peut dire que les lettres de Beethoven sont quasiment aussi illisibles que ses partitions.
Oui, j'allais dire que la musique est peut-être encore plus illisible, parce qu'il y a des pattes de mouche, il y a beaucoup de ratures. Alors que là, bon, pour qui a l'habitude de regarder des documents du 19e siècle, je pense que ça peut se lire. Et tout en vous écoutant, je regardais, parce que le fac-similé le reproduit, la formule finale à nous.
Éternellement.
C'est quand même très très beau, mais c'est plus facile de vous écouter que de lire. Finalement.
Oui, parce que c'était en plus c'est écrit en allemand, disons-le, évidemment. Oui. Donc ce Beethoven était quand même un peu un cœur d'artichaut, c'est ce que je disais tout à l'heure.
Ah oui, alors il faut associer les amours nombreuses de Beethoven et la musique. Parce que c'est souvent en donnant des leçons de piano que Ludwig van Beethoven tombait amoureux. Et il tombait facilement amoureux parce qu'il avait quand même des jeunes filles
de
la belle société, de l'aristocratie viennoise. Alors il était très patient. Les leçons qui ne devaient durer qu'une heure pouvaient durer 4-5 heures quand il tombait sur une demoiselle peut-être pas très douée en musique mais qu'il trouvait fort belle. Et alors l'histoire est assez drôle parce que... Alors il a donné beaucoup de leçons de musique. Il a donné peu de leçons de composition mais il a donné beaucoup de leçons de piano pendant 20 ans à peu près, de 15 ans à 35 ans. Et c'est drôle parce que Beethoven, qui a toujours couru le cacheton, comme on dirait aujourd'hui, qui vraiment avait des besoins d'argent, alors quand il tombait amoureux d'une de ces nombreuses jeunes femmes de Vienne, ne se faisait pas payer, ou il se faisait payer en linge de maison, parce que, disait-il, c'est la demoiselle elle-même qui les avait cousus. Enfin,
alors,
c'est très beau.
Il faut bien voir qu'on est tout début du 19e siècle et qu'on n'est pas en France là. On est en Allemagne, en Autriche, enfin dans des régions où l'amour peut être plus volontiers platonique que chez nous. C'est vrai qu'en France, quand on parle de liaison, quand on parle d'amoureux, d'amoureuse, etc., généralement, il y a une part physique dans cet amour. Il semblerait bien que chez Beethoven, ça se cantonne très souvent à des amours de tête.
Oui, en tout cas, ce n'est pas écrit, ça n'apparaît pas explicitement. Alors, en effet, il y a des lettres très enflammées. Enfin, il y a notamment cette lettre à la bien-aimée. Quand on la lit in extenso, on est porté par un souffle. On aurait presque envie de la recopier, hein, de s'en attribuer la paternité. Mais il est vrai qu'on est surtout dans l'écrit, pour tout dire.
Vous êtes venu, vous, avec votre fac-similé, Thierry. Moi, j'ai des photos qui représentent des statues et des portraits de Beethoven. Alors, c'est intéressant parce qu'on a évidemment l'image de cette espèce de lion hirsute à la fin de sa vie, hein, complètement dépenaillé avec la tignasse, la crinière au vent. Il est vraiment pas très séduisant, là, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il a été un très séduisant jeune homme. J'ai un portrait de lui jeune que je vais tout de suite montrer à Julia.
Oui,
il était tout à fait charmant, Beethoven jeune.
Très élégant.
Et il avait le teint basané, ce qui fait que quand il était enfant, on l'appelait l'Espagnol. Ce qui n'était pas dans la bouche de ceux qui disaient ça, d'ailleurs, un compliment. On se moquait de lui.
Oui, bien sûr.
Mais il avait en effet des traits. Enfin, c'était un beau gosse de 20 ans. Il n'a pas seulement été cette espèce de lion avec cette crinière impressionnante.
Et un enfant dont l'enfance a été particulièrement contrainte. D'où venait-il ce Beethoven et pourquoi ses amours difficiles et souvent exaltés? C'est ce que nous allons voir dans un instant en votre compagnie, cher Thierry Geffrotin.
Jusqu'à 14h sur Europe 1.
Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Coup de projecteur aujourd'hui sur Europe 1 sur l'un des plus grands maîtres de la musique classique. Mais qui était Ludwig van Beethoven? Élément de réponse avec vous, Franck et Thierry Geffrotin.
C'est Romain Rolland qui disait de Beethoven, il est bien davantage que le premier de tous les musiciens. Il est la force la plus héroïque de l'art moderne. D'où venait cet extraordinaire génie? Eh bien, il venait d'un monde de musiciens tout de même. Alors sa mère, Marie-Madeleine, un peu neurasthénique, une mère aimante, hein, mais un peu éteinte, étouffée par la personnalité de son mari. Le mari, lui, est musicien. Il se trouve qu'il est ténor aussi. C'est un alcoolique, disons-le, un personnage assez brutal et qui se prend, Thierry Geffrotin, c'est ce qui, moi, me frappe, il se prend littéralement pour Léopold Mozart. Il a vu qu'un enfant prodige, ça avait bien marché avec Mozart, et bien il voudrait faire la même chose avec son fils.
Oui, la différence, c'est que Léopold, lui, n'est pas alcoolique.
Il ne boit pas du tout, plus
qu'il écrit de musique. Parce que le problème, en effet, de M. Beethoven père, c'est qu'il a une belle voix ténor, il chante à la cour, enfin, il avait une belle voix, parce que l'alcool a eu raison de cette voix. Mais il sent aussi, à travers son fils, qu'il initie à la musique, qu'il a touché, excusez-moi cette familiarité, mais qu'il a un enfant plus que doué. Ouais.
Et d'ailleurs, il va
vite le confier à d'autres mains. La première de ses mains, c'est un autre maître, un petit maître qui va surtout boire de concert avec le père. Il va donner peu de leçons au fils. Et finalement, Beethoven a Neffe. Voilà. Ça, c'est il y a toujours une rencontre dans la musique. Évidemment, de naître dans un environnement, ça porte. Mais il faut une rencontre. Et là, la rencontre de Beethoven, c'est Neffe qui va le mettre sur la voie, qui va lui faire découvrir Jean-Sébastien Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, les musiciens de l'époque de Mozart, l'école de Mannheim.
Il faut dire que le petit est très très doué.
Plus que doué. On connaît évidemment Beethoven comme compositeur, mais c'est un immense pianiste, très très grand pianiste, et aussi violoniste, altiste. Il touchait de tous les instruments, un peu comme Bach d'ailleurs, ou comme Mozart, puisqu'on parle de Mozart. Mozart aussi était un très grand violoniste.
Et comme Mozart, on va l'emmener à Vienne. Alors il a son protecteur, lui c'est le comte von Waldstein, qui l'emmène à Vienne dès 1787. En 92, on le présente à Haydn, qui... On a l'impression que l'ombre de Mozart est omniprésente dans la jeunesse
de Beethoven. Parce que n'oublions pas que Haydn, qui avait 24 ans de tête de plus que Mozart, alors vous imaginez, Mozart est né en 1756, Beethoven est né en 1770, Haydn commence à être un vieux monsieur, mais c'est là référence, j'allais dire, européenne, mondiale de la musique. C'est l'homme qui a mis au point le quatuor, c'est l'homme qui écrit des symphonies, il a écrit 104 symphonies, vous imaginez, là où Beethoven en écrit 9, mais quel 9 ? Et Haydn écrit 104 symphonies.
Et Haydn dira à Beethoven, vous me faites l'impression d'un jeune homme qui aurait plusieurs têtes, plusieurs cœurs, plusieurs âmes.
Oui, parce que la force des compositeurs, des génies, c'est de savoir reconnaître les autres génies. Ils ne sont pas fermés, ils ne sont pas simplement tournés vers eux.
On aurait pu imaginer que Beethoven rencontre Mozart. Hein. Ça, il s'en est fallu de peu. Certains ont imaginé la rencontre.
Très mauvaise année pour Mozart et pour Beethoven au moment où il arrive dans les années 1786. Mozart a beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Il vient de déménager, il a des problèmes d'argent une fois de plus. Il doit travailler à Don Giovanni. Son père, Léopold, est malade et ça sera l'ultime maladie. Et je pense qu'il de recevoir un virtuose, encore un prodige... Je pense que ça n'intéresse pas tellement Mozart.
Alors, à cette époque, en France, on organise de nombreux concours de poésie, des joutes poétiques. En Allemagne et en Autriche, évidemment, on organise des joutes musicales. Et celui qui triomphe aux joutes musicales viennoises, c'est le jeune Beethoven. On a l'impression qu'il joue de la musique comme il respire.
Hein, mais je pense que c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est d'ailleurs une manière de faire de la musique que l'on connaît, par exemple... Il y a un autre exemple dans l'histoire de la musique, c'est la rencontre entre Jean-Sébastien Bach et Louis Marchand, grand compositeur français aujourd'hui qu'on ne connaît plus. On dit que Marchand, ayant entendu Bach, n'a pas osé se mesurer à lui et qu'il est parti très très vite. Et voilà, les joutes musicales, c'était quelque chose. À l'époque de Chopin et de Liszt aussi, ça se pratiquait. Alors pour nous, c'est un côté un peu foire, quoi. Mais ça ne doit pas être mal. On devrait faire ça, tiens, dans la musique classique.
Les premiers chefs-d'œuvre de Beethoven voient le jour au tout début du 19e siècle. Hein. Ils naissent en même temps que le 19e siècle. Mais problème, quand je dis problème, que dis-je, tragédie invraisemblable pour un musicien, pour quelqu'un qui a fait de la musique, de la sonorité, sa vie même, le voilà qui, dès 1802, est atteint par une surdité dans un premier temps. Il n'y croit pas, mais il est bien obligé de constater que peu à peu, il est en train de perdre l'ouïe. On le voit s'isoler de plus en plus, il ne sort plus, Beethoven, il a honte de sa surdité, et du coup, forcément, il passe pour un ours. Il écrit ce fameux ce qu'on a appelé par la suite le testament de Heiligenstadt, qui est daté du 6 octobre 1802, et on trouve dans ce terrible texte « Ô vous, homme qui pensez que je suis un être haineux, obstiné, misanthrope, ou qui me faites passer pour tel, comme vous êtes injuste, vous ignorez la raison secrète de ce qui vous paraît ainsi, songez que depuis 6 ans, je suis frappé d'un mal terrible que des médecins incompétents ont aggravé. D'année en année, déçu par l'espoir d'une amélioration, j'ai dû m'isoler de bonne heure, vivre en solitaire, loin du monde. » C'est atroce ce qui est en train de se passer.
Oui, et on sait aujourd'hui que les premiers symptômes de la surdité sont apparus très très tôt. C'est-à-dire qu'il est devenu sourd progressivement. Alors je ne veux pas dire que c'est mieux ou que c'est pire, mais vous imaginez pour un musicien...
De voir jour après jour.
Jour après jour. Et la plus grande partie des chefs-d'œuvre de Beethoven, il les a écrits alors qu'il est sourd. Ah, c'est oui. Quand même la 9e par exemple, il est sourd.
Il maîtrise la musique à un tel niveau qu'il n'a pas besoin de l'entendre.
Il l'a dans la tête. Alors, il y a quand même pour nous... non pas une consolation, mais la conséquence de cette surdité, ce sont les cahiers de conversation qui sont très intéressants. Parce que Beethoven...
Comme un enregistrement de ces conversations, ça c'est incroyable.
Oui, alors on trouvait absolument tout. Assez peu de musique, finalement, mais au quotidien, quand il était avec des personnes, il écrivait ce qu'il voulait... plutôt les personnes écrivaient ce qu'elles voulaient lui dire. Lui aussi, il lui arrivait d'écrire. Alors on a des listes de courses, des livres de contes. Alors le problème, c'est qu'on en a perdu de ces cahiers de conversation,
mais
parce que comme
beaucoup,
toujours,
oui,
quand l'histoire, la grande histoire, est entachée de petites histoires et des documents qui disparaissent, soit qu'ils sont brûlés, soit qu'ils sont volés.
Bien sûr.
Et malheureusement, mais c'est quand même pour nous très précieux. Au-delà de la correspondance, là j'ai sous les yeux, et je le signale parce que c'est une somme, chez Actes Sud, toutes les lettres, l'intégrale de la correspondance de Beethoven, au-delà de la correspondance,
c'est une somme monumentale.
Les cahiers de conversation de Beethoven, c'est quand même assez incroyable. Et on le doit évidemment à la surdité.
Vous savez Thierry, l'année dernière, j'étais à Bonn et j'ai profité de mon passage à Bonn en Allemagne pour aller visiter la maison de Beethoven, évidemment. Et ce qui m'a peut-être le plus frappé, outre la très grande sérénité qu'on ressent, comme souvent dans les maisons de musiciens du reste, c'est tous ces appareils de surdité qui sont exposés aujourd'hui dans des vitrines. Alors on a des espèces de choses invraisemblables avec des tuyaux, des pavillons immenses comme des espèces de gramophones, des choses qu'on s'attache sur la tête avec des ressorts, etc., pour essayer d'entendre. Quelle souffrance ça a dû être pour
lui.
Oui,
et lui-même a utilisé, mais il trouvait ça terrible et horrible, il lui-même a utilisé un cornet acoustique à partir de 1816.
Un cornet acoustique, voilà. Le terme que je cherchais.
Mais vous imaginez, un compositeur de génie, il était reconnu comme tel, avec un cornet acoustique.
Et cet homme qui est meurtri vraiment dans ce qui est le sens premier pour lui, et qui néanmoins va chercher, et non seulement chercher, mais va transmettre constamment la joie, l'optimisme, un héroïsme extraordinaire. Et au fond du fond, parce que c'est peut-être là qu'il faut aller chercher la clé d'une personnalité aussi secrète, somme toute, que celle de Beethoven, il y a une sorte d'humanisme, il y a une foi en l'homme. Écoutons, si vous le voulez bien Thierry, le concerto L'Empereur.
Thank you.
La foi de Beethoven en l'homme telle qu'elle transparaît dans ce sublime concerto Empereur qui date de 1809. Nous avons compris, je crois, à quel point Beethoven avait été capable de surmonter les épreuves de son existence. Nous allons voir qu'il avait un caractère extraordinaire et j'aimerais notamment, Thierry, que nous revenions sur cette anecdote assez terrible, l'anecdote du prince Lichnowsky qui l'invite dans son château en Silésie. Vous allez voir que notre homme n'était pas quand même d'un naturel très facile.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
De la 6e symphonie sur Europe 1 de Beethoven. Quelle force, Franck.
Oui, quelle force, quel romantisme. Il ne faut jamais oublier que Beethoven, très tôt, a lu Goethe, a lu Schiller. Il fait partie de ce mouvement du Sturm und Drang, qui est le romantisme allemand. Et il va l'incarner, ce mouvement. Il va l'incarner jusqu'à sa quintessence. Je vous disais qu'il était d'un caractère assez emporté. On l'a compris quand on entend effectivement ces quelques accents de la symphonie pastorale qui sont censés évoquer un orage, il faut vous dire. Donc il y a une raison, évidemment, derrière cette violence et cette force musicale. Je vous disais qu'à l'automne 1806, il accompagne en Silésie, dans son château, le prince Lichnowsky. Et Lichnowsky ne croit rien faire de mieux que de proposer à ses invités, en l'occurrence ce sont des officiers français, ça ne plaît pas du tout à Beethoven, on est à la grande époque où Napoléon est en train de j'allais dire de ravager l'Allemagne, oui je crois qu'on peut le dire objectivement, et de filer vers la Pologne et au-delà. Et donc Beethoven est furieux, il ne veut pas jouer contre les officiers français, etc. Le prince lui dit « Mais vous ferez ce que je vous demande ?» Non. Et Beethoven finit par dire « Prince, ce que vous l'êtes par le hasard de la naissance. Moi, ce que je le suis par moi-même. Des princes, il y en a et il y en aura encore des milliers. Il n'y aura jamais qu'un seul Beethoven. » Là-dessus, il claque la porte et le voilà parti avec ses petites valises dans la neige. Il fallait pas le contrarier quand même, Thierry Geoffroy.
Oui, il avait du caractère et alors, bizarrement, il était souvent mal aimable avec ses protecteurs.
C'est
une manière de montrer son indépendance, parce que j'ai dit qu'il avait eu des soucis d'argent, comme Mozart d'ailleurs, mais il a eu aussi de nombreux protecteurs dans la noblesse viennoise. Vous avez cité le comte Waldstein pour commencer, le prince Lichnowsky, enfin il y avait même un comte russe, enfin, on peut en citer de très très nombreux, et toutes ces personnes mettaient la main à la poche, en échange de quoi...
On se cotise parfois,
oui, pour éviter qu'il quitte Vienne en 1808. Alors, on met la main à la poche, faute de quoi, on est sûr de rien. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un aristocrate qui commande la 5e symphonie, pour ne pas la citer, ben, elle ne lui sera pas dédiée. Mais voilà, c'est Beethoven, vous me donnez de l'argent, certes, mais je reste indépendant parce que je suis unique et j'entends faire ce que je veux. Et alors, ça nous fait sourire. Mais vous imaginez, à l'époque, parce qu'ils n'étaient pas que mécènes, ces aristocrates. Ils entretenaient des orchestres.
Ils étaient souvent musiciens.
L'archiduc lui-même était compositeur. Et donc, on entretient ici un quatuor, là un orchestre, des chanteuses, etc. Donc on le fait aussi pour sa maison, en quelque sorte, pas seulement pour faire plaisir à Beethoven.
Je me disais, en revoyant tout ça, là, que Beethoven était peut-être l'un des premiers musiciens, et on a envie de dire artistes indépendants. On est au début du 19e siècle, ça n'est pas un hasard. Jusqu'ici, les artistes étaient quand même dans des fonctions ils étaient quand même très encadrés,
oui,
en quelque sorte.
Haydn est l'exemple, ben qui est resté plus de 30 ans au service du prince Esterházy. Mozart a montré la voie
à
Beethoven. Oui, parce qu'il est venu à Vienne justement pour être un musicien indépendant, pour sortir de cet esprit de domesticité qui était celui des musiciens, tout simplement. Haydn, dans son contrat, il faut lire le contrat de Joseph Haydn lorsqu'il entre au service du prince Esterházy, il mange dans les cuisines avec les officiers. Il doit se présenter poudré et en habit chaque matin pour savoir si le prince a envie ou besoin de musique. Alors, on comprend en effet que Beethoven et avant lui Mozart essayaient de secouer le joug et de devenir indépendant, mais à quel prix? À quel prix? Parce qu'il fallait vivre et pas seulement écrire de la musique. Il fallait vivre.
On a évidemment, quand on écoute aujourd'hui toutes ces compositions absolument merveilleuses, ces trios, ces sonates absolument merveilleuses pour piano et violon, par exemple, on a l'impression d'une sorte d'éther de perfection. Mais d'où cette perfection sort-elle? Quelles difficultés au quotidien?
Beaucoup de travail. Et en général, Beethoven remet la main à la pâte. Une fois qu'il a entendu en concert une de ses œuvres, il la retravaille. C'est même pas, il la retouche. Et, c'est work in progress, comme disent les Anglais. On est toujours dans l'accomplissement d'une œuvre à venir.
Je parlais du mouvement romantique allemand, le Sturm und Drang, que j'évoquais tout à l'heure le nom de Goethe. Ils se sont rencontrés, mais alors ça, c'est une rencontre ratée. Hein. C'est drôle,
d'ailleurs. C'est loupé. Ouais. Visiblement, Goethe n'a pas accroché. Et surtout, Beethoven, espèce de grand humaniste qui a des idéaux, il dit cet homme-là est plus intéressé par les affaires de la cour que par la poésie, pour faire simple. Alors voilà, ils se sont vus, mais ça n'a pas accroché.
C'est assez amusant, parce que parfois, on se dit, ah là là, si Beethoven avait rencontré Goethe,
ça a eu lieu, mais ça n'a pas marché entre eux.
Alors, il avait un frère, Caspar Karl, qui joue un rôle très important dans sa vie, et j'allais dire au moment de sa mort, surtout, parce qu'en 1815, lorsque meurt son frère, il se bat pour obtenir la garde de son neveu.
Mais
alors ça, c'est toute l'histoire du neveu de Beethoven.
Quelle idée il a eu là, parce qu'en effet, il y a des procès derrière, il y a des fâcheries, il y a aussi des tourments pour Beethoven qui finalement, en héritant, entre guillemets, de ce neveu, ne va pas obtenir satisfaction du tout. Je pense qu'il voulait reporter une forme d'amour, mais il n'a pas été payé de retour, en quelque sorte. En effet, c'est compliqué. On a envie de dire, monsieur Beethoven, faites de la musique.
Faites de la musique et ne vous occupez,
ne vous occupez
pas du reste.
Pas de la famille.
Oui, c'est ça. Et ce neveu va vraiment lui apporter c'est une source d'ennui. Qu'est-ce que c'était que ce neveu, finalement? Et comment expliquer son attitude?
Alors là, j'avoue, je l'ignore, mais il faut dire aussi que Beethoven n'est pas facile. Hein. On disait que c'est quand même un homme qui a une conscience de ce qu'il est, avec la surdité qui se referme sur lui, qui devait être une espèce d'ours parfois mal léché, sans doute avec un grand cœur, mais cyclotimique assurément.
L'ours a été blessé à ce moment-là. Oui. D'ailleurs, il va tomber dans une sorte de dépression lui-même en 1816, en 1817. Il est vraiment très mal.
Oui,
on pense même qu'il va se suicider.
Oui. Et d'ailleurs, le suicide, alors il en parle aussi dans le testament d'Heiligenstadt quand il évoque la surdité, mais le suicide est comme une ombre qui plane sur Beethoven.
Il y a eu une tentative de suicide de son neveu aussi, mais ça c'est plus tard. C'est le 30 juillet 1826. Le neveu essaie donc de se suicider. Quel est constat d'échec en même temps. Là, il aurait vraiment mieux dû se tenir à l'écart de toute cette affaire. À ce moment-là, Beethoven retombe malade. Il contracte d'ailleurs une double pneumonie. Il va rencontrer Schubert quelques semaines après sa mort. Il dit de lui, il sait tout, mais nous ne pouvons pas tout comprendre encore, et il coulera beaucoup d'eau dans le Danube avant que tout ce que cet homme a créé soit généralement compris. Voilà l'hommage de Schubert à Beethoven. Nous avons, évidemment, nous considérons Beethoven comme de la musique romantique, et on a tendance à dire comme de la musique classique, même si ce n'est pas le bon terme. Et à l'époque, c'est tout sauf de la musique classique, c'est de la musique ultra révolutionnaire.
Il révolutionne le genre, et les critiques musicaux de l'époque ne comprennent rien. Mais remarquez, en général, à l'époque, il en est de même pour Bach. Les critiques disent, mais qu'est-ce que c'est que cette musique? Et pour Beethoven, c'est la même chose. Mais qu'est-ce que c'est que cette musique que vous nous faites là? Mais les génies sont en dehors des chemins tracés. Et ce qui est saisissant, c'est de se dire que parmi les compositeurs, il y a Mozart, bien sûr, mais parmi les compositeurs classiques, Beethoven est celui qui touche le profane, celui qui sait parler à celui
tout le monde
qui n'y connaît rien.
Oui, voilà.
Et c'est quand même formidable, parce que la musique de Beethoven parle aussi aux amateurs très éclairée, et elle parle aussi la même langue à ceux qui n'y connaissent rien.
Nous, êtres limités à l'esprit infini, sommes uniquement nés pour la joie et pour la souffrance. Ça, si c'est pas romantique, ce manifeste-là. Et on pourrait presque dire que les plus éminents s'emparent de la joie par la souffrance. C'est sa devise, en quelque sorte, Durchleiden, Freude, à travers la souffrance, la joie. Et ce sera évidemment l'ode, l'hymne à la joie de la 9e et dernière symphonie de Beethoven.
Et oui, on aurait aimé avoir une dixième symphonie, parce qu'on se dit il y a des esquisses, des brouillons, parce que lorsque Beethoven accouche de la neuvième, il y pense depuis très longtemps. On a pensé que pendant 8 ans, il n'avait pas du tout touché à la forme de la symphonie. C'est pas vrai. Sur ses cahiers, il écrit comme ça des formules, des thèmes, et un jour, il ressort tout ça. Et on se dit, il aurait dû aussi composer une dixième.
Ah oui, c'est à quoi est-ce qu'elle aurait ressemblé, cette dixième symphonie? Vous avez une idée, vous, de ça? Parce que, entre la huitième et la neuvième, il y a un saut impressionnant. Oui. On n'est plus du tout dans la même chose.
Déjà, de par la forme.
C'est presque une sorte d'oratorio, la neuvième.
Oui, c'est assez difficile à définir. Oui. Évidemment, c'est une forme symphonique, puisqu'il y a un grand orchestre, mais il y a aussi des solistes, il y a un chœur, il y a toute cette première partie orchestrale, les solistes qui interviennent, le chœur qui dure quelques secondes, l'Ode à la joie dure quelques secondes dans la 9e symphonie.
Freud et Goethe.
Voilà, c'est un chef-d'œuvre en soi, et tout le monde l'aime.
Il va falloir que vous réalisiez bientôt un coffret Beethoven, cher Thierry, puisque vous en avez fait pour Mozart, pour Chopin, pour Brahms. On attend aux éditions éponymes votre Beethoven, et je renvoie en attendant nos auditeurs à votre ouvrage publié chez Que sais-je, aux Presses universitaires de France, Les 100 mots de la musique classique. Ça, c'est pour briller en société et pour donner, même si vous n'êtes pas expert dans le domaine de la musique, l'impression que vous savez tout. L'illusion que vous savez tout et que vous avez passé votre temps à la salle Pleyel. Merci beaucoup Thierry Geffrotin. Vous avez été, comme d'habitude, aussi bouillant que Beethoven lui-même.
Oui, et j'espère moins ombrageux.
Bonjour Elena Morna.